Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Marc avec le frère Dominique Collin. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux pour une nouvelle émission où je me propose de mener des lectures cursives de deux grands textes, l'Évangile de Jean et l'Évangile de Marc, avec José Willibald Michaud pour Saint-Jean et Dominique Collin pour Saint-Marc. Je voudrais que cette émission soit une chambre d'écho pour tous ceux qui nous écoutent. Une chambre d'écho où vous pourrez trouver une correspondance entre ce que vous vivez et ce que vous lisez et entendez de la trace de cet homme, Jésus. Je crois que chaque lecteur qui lit un grand texte peut être le propre lecteur de lui-même. Et cette lecture se fait au risque de la parole, justement. D'où le titre de cette émission. Pour vous accompagner, je vous propose une série d'émissions qui devraient être des lieux de rencontre et d'inspiration. Cette émission hebdomadaire traitera des deux évangiles en alternance. Vous retrouverez donc Saint-Jean ou Saint-Marc tous les 15 jours. Nous prendrons notre temps. Prenez de votre côté, à côté de vous, le texte et pourquoi pas un bout de papier pour noter une expression à savourer, un texte à relire, un mot-clé. Laissez-vous surprendre, étonner, questionné par ces textes fondateurs. Et aujourd'hui, c'est la première émission sur Saint-Marc avec le frère Dominique. Frère Dominique, bonjour.
Bonjour Pierre-Paul. Bonjour chers auditeurs.
Et bien justement, les auditeurs de RCF vous connaissent bien. Et je suis particulièrement heureux de mener avec vous cette lecture cursive de Saint-Marc, notamment parce que vous m'avez dit à quel point ce texte vous a marqué.
Oui, oui, je pourrais dire que je suis un martien, mais encore faut-il bien l'écrire avec un C, oui. Martien, c'est-à-dire nous avons des textes qui nous touchent, nous travaillent et nous passionnent. Et si chaque évangile, évidemment, a ses qualités indéniables, celui de Marc me travaille plus particulièrement. J'aurai peut-être, au fur et à mesure de notre lecture cursive, le soin de montrer pourquoi, non seulement c'est l'évangile selon Marc, offert à tout croyant, mais aussi à tout être humain, qui cherche à trouver du sens dans sa vie, simplement à explorer l'énigme de la condition humaine. Et nous verrons qu'un évangile, ce n'est pas d'abord un texte religieux, si l'on veut. Ça traite vraiment de tout ce qui fait notre expérience humaine. Et nous aurons, grâce à cette lecture, et toute lecture permet, je pense, au lecteur de se déchiffrer, en fait, d'apprendre à se lire. Un lecteur croit lire un livre et puis il y a le fait que c'est le livre qui est en train de le lire, de le déchiffrer, de le travailler. Et c'est donc d'abord une expérience qui m'est personnelle et que je partage aussi dans la prédication, dans des lieux qui sont soit des groupes de lecture ou des séminaires ou des retraites. Et donc il y a aussi tout ce travail avec d'autres lecteurs. Donc il y a déjà le travail des auditeurs comme vous les invitiez. Puis il y a aussi, je pense, toute une communauté de lecteurs. C'est ça, pardon, aussi l'Église.
Oui, je pense que c'est pour ça qu'il faut laisser ces textes résonner véritablement en nous, y revenir, parce que les résonances sont parfois ont des longueurs d'onde parfois très différentes.
Chacun avec son rythme et sa temporalité, bien sûr.
Voilà. Avant de vraiment plonger dans le texte, quelques balises peut-être pour commencer. L'évangile de Marc est le plus ancien des récits qui retracent la vie de Jésus. Il est bref et presque rude, en quelque sorte. Mais que sait-on exactement de son auteur ?
Donc c'est le plus ancien évangile mis par écrit. Mais ce n'est pas le plus ancien des textes du Nouveau Testament. Donc je rappelle quelque chose qui n'est pas nécessairement toujours repéré, c'est que donc, le Nouveau Testament commence en fait par la production d'une lettre. C'est l'épître aux Thessaloniciens que Paul écrit vers 50, 51 ou 52 après Jésus-Christ. Donc le premier texte littéraire qui va former ce qu'on appelle le Nouveau Testament, Nouveau Testament qui est composé de 27 livres, eh bien c'est une lettre. Et un aspect aussi qui est à mon avis très propre aussi à ce qu'on appelle la révélation chrétienne, c'est que sur les 27 livres du Nouveau Testament, il y a 21 lettres. 21 lettres. Donc il y a 4 évangiles, les Actes des Apôtres et l'Apocalypse, qui ne ressortissent pas du genre littéraire épistolaire, c'est-à-dire de la lettre. Donc c'est tout de même étonnant de savoir que notre révélation, si l'on veut les textes fondateurs, sont d'abord des échanges épistolaires.
Et c'est quelqu'un qui écrit à quelqu'un.
Et c'est quelqu'un qui écrit à quelqu'un. Et oui. Ça dit beaucoup de choses d'une sorte de communication dont nous aurons à reparler, parce que l'évangile, on approfondira même le sens de ce mot, l'évangile c'est d'abord une parole adressée. C'est quelqu'un qui dit quelque chose, ou en tout cas, avant même de dire quelque chose, c'est quelqu'un qui crée un effet d'adresse. C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose de relationnel, on cherche un destinataire, il y a bien quelqu'un, et ce quelqu'un, dans une lettre, n'est pas une abstraction. Paul écrit à des communautés, il a des visages devant lui, il écrit à des êtres de chair, et l'évangile, si l'on veut, ou la communication chrétienne, elle commence toujours par s'adresser à des gens, de chair et d'os.
Et ce n'est donc pas vraiment ce qu'on en a fait un petit peu, des textes sacrés dans le sens de textes intouchables.
Absolument pas. Comment une lettre est donc toujours circonstancielle, en fait. Elle parle d'événements que nous ne repérons pas nécessairement, nous, toujours très bien 2000 ans après, mais Paul écrit à des gens qui se posent des réelles difficultés, qui ont des problèmes de foi, des problèmes aussi de comment vivre dans un monde qui n'est pas chrétien, dans un monde païen, des communautés qui ont tellement de conflits comme celle, cette bande vraiment de chrétiens tout à fait un peu furieux, un peu fou furieux que sont les Corinthiens. Et donc, Paul s'adresse à des gens en parlant de leurs problèmes et en s'adressant à eux dans ce qui fait donc leur existence concrète. Et ça, nous l'avons un peu perdu en faisant du christianisme davantage peut-être une doctrine avec ce que ça comporte de généralisation et d'abstraction. Alors c'est bon donc de se rappeler que le Nouveau Testament est composé essentiellement en fait d'écrits circonstanciés et que l'évangile, ou plutôt les quatre évangiles, comme genre littéraire de livre qui commence avec celui donc de Marc, puisque l'immense majorité des spécialistes sont d'accord depuis bien longtemps pour dire que c'est le plus ancien. Plus ancien, ça veut dire que l'on le situe aux environs de 70 après Jésus-Christ, probablement avant la chute du Temple de Jérusalem, ou en tout cas dans les événements, qui sont des événements assez dramatiques, si pas traumatiques, que va vivre Israël.
Ça va être vraiment une césure.
C'est la césure, et ça va être la césure aussi entre un judaïsme et un judaïsme qui va essentiellement être un judaïsme de pharisiens, et c'est aussi la grande césure entre ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui n'ont pas du tout l'intention ni l'impression d'avoir renié leur foi juive, mais qui suivent le Messie, le Christ. Et Marc, nous le redirons, s'adresse principalement à des judéo-chrétiens, mais déjà de tendance hellénistique, c'est-à-dire ce sont des judéo-chrétiens qui vivent soit sur le pourtour de la Méditerranée, ou pense-t-on plus probablement la communauté des judéo-chrétiens de Rome, et qui parlent le grec, un peu le latin évidemment, mais qui ont déjà une culture peut-être plus ouverte à, je vais dire, aux dimensions culturelles de l'Antiquité de l'époque. Donc nous sommes vers donc 70 après Jésus-Christ. Pour vous donner une idée, donc nous aurons 10 ans après, nous aurons l'évangile de Matthieu et Luc, et puis on va vers 90-100 pour avoir le dernier, quatrième évangile, qui est celui donc de Jean. Donc on arrive dans le début de la production, de la mise par écrit, de quelque chose dont je redirai aussi suffisamment que le mot évangile n'est pas d'abord un livre, il est une annonce, une proclamation. Mais quand Marc commence ce livre en disant « commencement de l'évangile », il entend donc le commencement de l'annonce, mais ça devient aussi, par le fait même, le commencement d'un genre littéraire qui n'existait pas jusqu'alors dans les genres littéraires produits par l'Antiquité. On connaissait des biographies d'hommes illustres, on connaissait des textes épiques, des textes poétiques, on connaît presque tous les genres littéraires, vous les avez aussi dans le Premier Testament, mais pas le genre littéraire de l'évangile. On l'oublie aussi, c'est bien quelqu'un qui, à un moment donné, a désiré raconter de manière signifiante et avec une forme de cohérence, dont je redirai aussi qu'elle n'est pas d'abord chronologique ou historique au sens factuel du terme, mais qui essaye de faire une confession de foi qui reprend les paroles et les événements de Jésus de Nazareth, reconnu comme Christ. Et c'est donc ce début d'une formation d'un genre littéraire qui va faire florès, puisqu'il y aura plusieurs évangiles et 4 reconnus comme étant canoniques, c'est-à-dire des textes fondateurs pour toutes les églises, que sont donc Marc, Matthieu, Luc et Jean.
Un mot-clé que vous venez de citer, c'est la proclamation. On voit dans le début de l'évangile de Marc à quel point Jésus proclame et puis à certains moments il enseigne. Il y a toutes ces nuances-là que nous suivrons à la trace chapitre par chapitre.
Ce sont des verbes importants, hein, il y en a même trois. Donc il y a proclamer, il y a enseigner et puis il y a guérir, prendre soin. Ça résume déjà un peu l'activité de Jésus dans un évangile. On le verra faire cela sans arrêt et tout au long de l'évangile, proclamer. Le royaume, on dira ce que c'est ou ce qu'il faut entendre plus ou moins par là, enseigner le chemin du royaume et montrer que ce royaume est déjà visible et tangible par des effets de transformation des personnes, c'est l'ordre du soin. Mais donc un évangile, c'est d'abord une parole proclamée, c'est quelque chose qui est annoncé, c'est un hérault, H-E-R-A-U-T, qui vient dire une nouvelle, une annonce, qui provoque, et nous le reverrons dans le premier verset, qui provoque un effet de joie, de surprise, d'étonnement, parce qu'enfin, il y a quelque chose de neuf qui est annoncé.
Vous avez bien situé cet évangile. Sait-on quelque chose de l'auteur ? Est-ce que réellement, il s'appelait Marc ou bien comment peut-on le situer, lui ?
C'est une des difficultés majeures quand on se trouve devant les textes du Nouveau Testament, parce que, hormis pour, en tout cas, une grande partie des lettres de Paul, elles sont réellement attribuées à Paul de Tarse, qui se veut donc, non pas le 13e apôtre, mais celui qui, après le chemin de Damas, donc se proclame ou se voit aussi recevoir cette mission d'être apôtre du Christ et du Messie crucifié. Donc nous savons qu'il écrit ses lettres, mais pour ce qui est donc des évangiles, ils sont, si l'on veut, attribués à une autorité, et de sorte que le titre d'un évangile, on l'oublie parfois, ce n'est pas évangile de Marc, mais c'est en grec « kata »,
Kata.
Secundum, oui. En latin, donc c'est selon. C'est une attribution qui devient classique au IIe siècle. Donc au IIe siècle, il y a une tradition qui vient en fait d'un évêque qui s'appelle Papias, et c'est une tradition qui est recueillie par un grand père de l'Église déjà à l'époque, qui est un historien de l'Église, c'est le premier grand historien de l'Église, c'est Eusèbe de Césarée, qui fait une histoire ecclésiastique. Et alors, il recueille la tradition selon laquelle c'est Marc, disciple de Pierre, qui aurait recueilli à Rome les témoignages et donc les souvenirs de l'apôtre Pierre. Donc on pourrait appeler dans cette tradition, si on la suit, l'évangile de Marc pourrait être aussi très bien appelé l'évangile de Pierre. Alors ce Marc, qui est eh bien, il y a des mentions de Marc dans les Actes des Apôtres et dans les lettres de Paul, notamment un certain Jean-Marc, dont on pense que le Cénacle à Jérusalem, où ont eu lieu donc, la scène, et puis juste après donc, l'arrestation, et puis la Pentecôte racontée par Luc, appartiendrait à la famille de ce Jean-Marc. Mais je tiens à rappeler que ce sont donc des hypothèses que les historiens formulent, parce que rien dans le texte même de l'Évangile selon Marc ne donne une indication sur l'identité de son auteur. Et il n'utilise jamais le pronom personnel « je », contrairement par exemple à l'auteur de l'évangile de Jean, qui de temps en temps fait une incise du rédacteur. Donc ce qu'on appelle l'auteur implicite, c'est Marc, mais nous ne savons pas si c'est l'auteur réel, si c'est bien lui qui a mis par écrit.
En tout cas, on le situe et comme vous l'avez bien dit, l'essentiel n'est pas là. Nous allons faire une première pause musicale avec de la flûte, flûte à bec, une fantaisie de Telemann. Sur RZF, nous continuons l'introduction à notre lecture cursive de Saint-Marc en compagnie de Dominique Collin. Nous avons situé l'évangile de Marc, on a situé l'auteur, dont on ne connaît pas grand-chose à vrai dire, mais ce qui est très intéressant, c'est que cet évangile est, me semble cohérent et en même temps plein de surprises.
Dominique Collin. Il est cohérent parce que, de fait, on l'oublierait de temps en temps, et notamment ceux qui ont une expérience liturgique, en fait, de l'écoute, de la lecture des évangiles, qui entendent des péricopes, c'est-à-dire des passages saucissonnés et découpés par notre mère, la Sainte Église, pour chaque dimanche, feraient perdre parfois l'idée que c'est un livre qui a un début, et on le verra, parce que dans l'évangile de Marc, ça commence par le mot « au commencement », donc début, ça commence, les choses commencent, et ça se termine. Donc il y a un récit où il se passe des choses, qui font intervenir des personnages avec une intrigue. Il y a du dénouement, il y a évidemment des crises et des épreuves qui vont très très rapidement arriver dans l'évangile de Marc et qui vont montrer que cet avènement et cette proclamation de l'évangile, elle crée immédiatement des effets d'étonnement, de surprise, des effets d'accueil, mais aussi des effets de refus. Et c'est cette trame, somme toute, assez dramatique, ou en tout cas critique, au sens où l'Évangile, comme tout Évangile, opère une sorte de crise et de discernement entre les esprits. Est-ce que j'accueille cette parole, ou est-ce que je m'y ferme? Est-ce que je m'y refuse, ou est-ce que je la laisse me transformer?
Exactement, et c'est un deuxième mot-clé. Nous avons déjà utilisé le mot « proclamation », mais il y a de choisir entre le neuf et le vieux.
Exactement.
À plusieurs reprises, d'ailleurs, cet évangile nous met devant ce choix. Je trouve aussi que c'est un évangile qui me semble particulièrement tonique.
Oui, alors il a déjà une brièveté qui fait que Marc ne s'embarrasse pas, si cette expression n'est pas un peu trop forte, comme Jean va le faire, de longs discours ou même de recollection de discours éparses de Jésus comme Matthieu va le faire, par exemple, donc le fameux sermon sur la montagne qui court sur plusieurs chapitres, tandis que chez Marc, on a une séquence narrative qui sont toutes beaucoup plus rapides. D'ailleurs, il a un adverbe qu'il va utiliser abondamment, c'est « aussitôt ». On va voir « aussitôt, aussitôt, aussitôt », ce qui donne un rythme, une sorte de rapidité que l'on peut lire à la fois comme quelqu'un qui veut entraîner son lecteur dans une histoire qui a son dynamisme et qui a aussi sa puissance d'évocation, et ce qui permet au lecteur de ne pas trop rapidement, entre guillemets, s'ennuyer. Puis ça donne aussi l'urgence de la narration, est aussi au service de l'urgence de la proclamation du royaume. Parce qu'il y a, et nous le verrons assez vite, l'annonce par Jésus que le temps est décisif. C'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on choisit d'accueillir le royaume qui est déjà là. Donc il n'y a pas à tergiverser, pas d'atermoiement, il y a assez vite à prendre position aussi. Et c'est ce que le lecteur va être tenu, si l'on veut, de faire par Marc, qui va le tenir en haleine, sans lui éviter les moments où, comme les disciples, nous le verrons, qui ne sont pas à meilleure enseigne, il va falloir se poser toujours la question, mais qui c'est cet homme, ce Jésus? Et quelle est cette parole qui m'enjoint à moi de changer, métanoïa, d'être transformé, en accueillant quelque chose qui n'est pas de moi, qui ne vient pas de moi et qui a un projet de Dieu. Et donc cette urgence va entraîner un rythme assez saccadé, assez bref, sans donc longueur, et un côté même parfois un peu rude, un peu rocailleux, un peu rugueux, parce que l'évangile de Marc ne s'embarrasse pas de trop d'effets stylistiques, rhétoriques, en usage dans un beau parler grec qui était celui donc des rhéteurs, des orateurs publics, qui avaient davantage comme finalité, la rhétorique à la finalité de la séduction. Tandis qu'ici, ce n'est pas des effets de séduction, c'est des effets de tirer le lecteur de l'illusion. Et pour le tirer de l'illusion, il faut être comme un bon médecin, pas qui enrobe mielleux, mais qui met exactement le doigt sur les, pas nécessairement sur ce qui fait mal, mais sur les lieux qui demanderaient une cure. Eh bien, l'évangile de Marc, il a cette force-là, il a une puissance tout à fait spécifique dans son style pour nous amener exactement aux questions qui sont les questions fondamentales et presque cruciales.
Oui, et finalement, on voit que Jésus essaie chaque fois de rendre l'autre à lui-même, véritablement, de faire appel à lui-même.
Et alors, tout à fait.
Il m'a semblé que la construction est extrêmement simple, finalement. Il y a toute une première partie qui culmine au chapitre 8, verset 30, où c'est Pierre qui dit « Tu es le Christ ». Et en même temps, quelques versets plus loin, Jésus lui dira « Passe derrière moi, Satan ». Et puis, la deuxième partie, c'est la montée vers la passion et la résurrection.
Et vers la confession donc de ce païen, centurion, qui est au pied de la croix et qui dit vraiment « Cet homme était fils de Dieu ». Hein, on a « Tu es le Christ, Pierre ». Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Nous sommes au chapitre 16. Pierre, c'est au chapitre 8, donc vous voyez une construction absolument symétrique. Il suffit d'ouvrir l'évangile de Marc, de le prendre en son milieu, et c'est cette proclamation de Pierre qui oblige aussi le lecteur à non pas seulement reconnaître que Jésus est Messie, je redirai cela de nombreuses fois pendant notre émission, pendant notre dialogue, mais qui oblige, comme Pierre, à comprendre que ce Messie, ce n'est pas un Messie tel que je souhaiterais que le Messie soit, et que c'est un passage par le Messie crucifié, par la croix, que le centurion païen, lui, a pu reconnaître.
C'est un Messie bouleversant.
C'est un Messie bouleversant,
oui, tout à fait. Et nous allons faire une deuxième pause musicale, toujours avec Telemann. Sur RCF, nous continuons, Dominique Collin et Pierre-Paul Delvaux, cette lecture cursive de l'évangile de Marc. Nous allons entamer cet évangile aujourd'hui et je me permets de lire les quelques premiers versets. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. » pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Frère Dominique, ce début est assez fulgurant. On a l'impression qu'on part sur les chapeaux de roue, en quelque sorte.
Tout à fait. Et avec quelques mots qui commencent, et c'est le cas de le dire, avec en grec « arché », commencement, qui signifie donc début d'une action, d'un événement, de quelque chose qui arrive, qui se produit. Et donc le texte devient presque contemporain et concomitant pour tout lecteur de tous les temps de quelque chose qui commence. Alors évidemment, pour nous, 2000 ans après, les choses racontées ont déjà commencé. Mais l'effet d'un livre, et particulièrement d'un livre qui se veut commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, c'est de ramener ce commencement au commencement qui est celui de la temporalité de l'existant, c'est-à-dire du lecteur devant le livre. Et fût-il même chrétien de naissance ou de baptême, et quelle que soit son évolution spirituelle, sa foi et sa manière de la vivre, chaque fois qu'un lecteur se remet à lire l'évangile selon Marc, il se retrouve au commencement. Et c'est un des effets, et pas un des moindres, de l'évangile de Marc, que de ramener le disciple à une condition de commencement, parce que il faut même se méfier, quand on se dit chrétien, d'un christianisme qui serait presque trop cher à nos yeux, mais qui n'aurait pas encore bien entendu l'inouïe proclamation de l'évangile, de ce Messie, fils de Dieu, dont nous allons voir que la trajectoire nous oblige, nous aussi, à passer par une sorte de mort à nous-mêmes pour renaître vivant. Il y a donc un effet, si l'on veut, pascal, et qui oblige donc le lecteur, lui aussi, peut-être comme ce jeune homme nu qui va s'enfuir en ayant abandonné ses vêtements, on le reverra au moment de l'arrestation, donc bien tard dans notre émission, le lecteur est obligé chaque fois, à chaque nouvelle lecture de Marc, à se dépouiller quelque peu pour commencer quelque chose de neuf. Donc le commencement situe non pas seulement l'action il y a 2000 ans, mais situe l'action de la lecture, c'est-à-dire la nôtre maintenant.
Au fond, c'est, pour faire une citation en harmonique, Rilke dit quelque part dans la lettre au jeune poète, « Ne voyez-vous pas que tout ce qui nous arrive est un commencement ?»
Eh bien, c'est C'est tout à fait ça.
Voilà. Alors, frère Dominique, c'est le commencement, mais alors, il faut comprendre le commencement en relation avec la fin de l'Évangile. En 30 secondes.
Un évangile comme celui de Marc, dans sa construction littéraire très puissante et tout à fait, je pense, réfléchie, avec un projet théologique tout à fait particulier, dont on essaiera aussi de montrer qu'il est proprement marcien. C'est-à-dire que l'évangile de Marc n'est pas seulement une variation d'un des quatre évangiles. Il a son univers théologique propre aussi, ce qui ne le fait pas être en concurrence ou en opposition avec les autres, mais il a son style qui est aussi un choix théologique. Ce choix théologique a fait choisir pour Marc de ne pas terminer son évangile, ou plutôt de terminer son évangile au chapitre 16, verset 8, par des femmes toutes tremblantes, de peur, qui quittent le tombeau sans rien dire à personne parce qu'elles étaient effrayées, c'est-à-dire sans apparition du ressuscité, avec une sorte d'énigme finale où le lecteur va être obligé de faire le parcours de lecture pour découvrir les signes, comme j'essaierai aussi de vous le montrer, les signes du ressuscité. Donc Marc ne l'a pas, si vous voulez, n'a pas raconté une apparition du ressuscité, parce que si l'on veut, la résurrection, ce sont les effets de lecture du croyant qui se remet à suivre cet homme-là et qui, en vivant, je vais dire, cette trajectoire et en passant comme le Christ de la mort à la vie, devient lui-même un témoin du ressuscité sans avoir été du tout un témoin oculaire, ce qui est notre condition,
tout
évidemment,
à
vous et à moi et à tous les autres en 2015.
C'est là-dessus que nous terminerons cette première émission sur cette énigme.